c'est cette connerie?
C'est le canu info. Ah,
ah je savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios? La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débattre ton permis, contre le volémie et ton fuchsie. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends mis la chute dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est ta mise en faux.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est Dodoué.Dodoué, la radio plus ribelle.
Paniquez pas, niquez tout.
Bonsoir.
C'est le vendredi 15 juin sur le 102.2 MHz en FM à Lyon et aux alentours. C'est Radio Canu et c'est le Canu Info du vendredi. Un Canu Info du vendredi qui commence relativement classiquement avec une rubrique locale dans laquelle nous allons d'abord évoquer l'hypothèse qu'il y ait bientôt des vidéos publicitaires partout dans les rues de Lyon.
Ensuite, on vous parlera de la condamnation d'un prof pour harcèlement sexuel. Donc ça, c'est un prof à Lyon 2.
Ensuite, on vous parlera d'une manifestation en soutien à Fabrice Borromé qui est incarcéré à la maison centrale de Moulins.
Et puis on fera un retour en son sur la traite de nuit en non-mixité qui a lieu ce soir.
Et puis il se paraît qu'il se passe des choses à Vaux-en-Velin, il se passe encore des écoles en lutte et on en parlera ce soir.
Et ensuite on passera au national et on vous parlera de la victoire des grévistes de Rouvray pour une autre psychiatrie.
Ensuite on vous parlera d'une nouvelle base de données sur les violences policières.
Et on ira du côté du secteur de l'énergie où les grèves s'amplifient.
Et puis, du 8 au 10 juin, vous avez dû l'entendre ici et le lire ailleurs, il y a eu une marche contre les frontières. On fera une petite lecture de communiqué qui suit cette marche.
Et ensuite, c'est le traditionnel agenda.
Bonne soirée, bonne écoute.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Préfet du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Vaux-en-Velin.
Petit reportage sur la grève qu'on a dit à les interjouer pendant la masse sur le rassemblement pour le droit à
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Rubrique locale, est-ce qu'il y aura bientôt des vidéos publicitaires partout dans les rues de Lyon? On va le savoir tout de suite. Alors JC Decaux a re-signé pour 15 ans, oui 15 ans, l'exploitation des vélos lyonnais en libre service, les fameux Vélov. Avec ce nouveau contrat qui chiffre quand même à 378 millions d'euros, l'industriel de la publicité renforce son emprise locale et compte imposer sur les trottoirs des panneaux publicitaires numériques. On vous en parle tout de suite.
Et donc oui, du coup, le 18 juillet prochain, le nouveau Vélov fera son apparition dans les rues de Lyon. En une seule nuit, les 4000 petites bicyclettes actuelles seront remplacées. Autre petite nouveauté, il sera possible de libérer un vélo sans passer par la borne, ou simplement en déposant sa carte sur le guidon, ou encore de laisser son deux roues à proximité quand une station est encombrée. Donc 80 nouvelles stations seront déployées dont la moitié dans les communes environnantes de Lyon, portant leur nombre à 428. Au passage, l'abonnement annuel va un peu augmenter, hein, puisqu'il grimpera de 25 à 31 euros. Et enfin, la moitié de la flotte des vélos en libre service, donc 2500 sur 5000, est promise à un avenir électrique. électrique, ce qui est un contre-coup publicitaire. Ce qui aura un contre-coup publicitaire.
Et oui, un contre-coup publicitaire parce que le lien entre la publicité et les véloves, il est important. Alors, des véloves contre de la pub sur des abribus ou des sucettes, le surnom des sucettes, c'est le panneau d'affichage. Contrairement à une idée communément admise, JC Decaux ne fournit pas le service de véloves à la métropole de Lyon grâce à ses recettes publicitaires. En fait, d'une part, les usagers du véloves le financent quand même à hauteur de 55% selon la métropole, c'est-à-dire de manière importante. D'autre part, le contrat est en réalité plus subtil. En échange des bicyclettes, les communes du Grand Lyon se privent d'une grande partie des redevances que verse la collectivité aux afficheurs de publicité. Pour le premier contrat, JC Decaux, donc le premier contrat c'était 2005-2017, le manque à gagner pour la métropole de Lyon s'est élevé à 50 millions d'euros. En gros, sans Vélov, l'industriel JC Decaux se serait acquitté de 60 millions d'euros de redevances pour mettre ses pubs un peu partout aux quatre coins de notre ville. Et grâce au Vélov, il a économisé 50 millions d'euros, ne payant que 18 millions pour ses publicités. Dans le nouveau contrat qui court jusqu'en 2032, le coût du service va passer de 68 à 180 millions d'euros, soit 2400 euros par Vélov et par an. C'est-à-dire que nous, citoyens de Lyon, payons 2400 euros pour qu'il y ait des Vélov.
Et surtout avec le contrat de donc 2017-2032, JC Decaux coche une nouvelle case innovante, l'apparition de Vélov à assistance électrique, avec une idée derrière la tête, installer évidemment des panneaux publicitaires numériques. Si vous utilisez le métro, impossible de pas savoir de quoi il s'agit, parce qu'il y en a un peu de partout. Ces équipements proposent des publicités lumineuses et animées, le nouveau Graal des industriels du secteur. JC Decaux a proposé au Grand Lyon donc d'équiper les trottoirs de plein de ces écrans. Objectif pour l'entreprise, donc vendre plus cher ses prestations aux annonceurs. Avantage pour la collectivité, augmenter sa redevance d'occupation du domaine public. Cela permettrait de financer l'ensemble des surcoûts liés au passage à 5000 Vélov et des 80 stations supplémentaires. Donc ça, c'est dixit Gérard Claes.
C'est un élu du Grand Lyon.
Voilà. La manne compenserait surtout le déploiement de 50% de vélos à assistance électrique. Le conditionnel est de mise car il y a un petit hic.
Il y a un hic. Le hic, c'est qu'actuellement, le deal passé entre la métropole et JC Decaux, il se heurte en fait finalement au règlement local de publicité, c'est-à-dire le règlement qui définit où on peut mettre de la pub, de quelle taille, etc. Et celui-ci ne fait pas, en fait, dans sa version actuelle, mention des écrans numériques. Il n'est pas possible, en fait, d'en mettre actuellement. On peut juste avoir des publicités papier. Et si ce genre d'équipement qui a fait son apparition, on l'a dit, dans le métro, mais aussi dans les gares et dans les aéroports, le Grand Lyon attend, attention, impatiemment la révision de ce règlement pour faire apparaître dans la rue. Bah oui, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des écrans un peu partout? Franchement, on n'en voit pas assez dans la vie. Et ce règlement actuel, qui est valide au plus tard jusqu'en 2020, il est très variable d'une ville à l'autre. En fait, aujourd'hui, chaque commune possède en fait son propre règlement de publicité. Et ce règlement, pour arranger tout le monde, il va être refondu dans un document intercommunal unique, va pour l'ensemble du Grand Lyon, qui il est fort probable intègre le fait qu'on puisse mettre des écrans. Et puis qu'importe si ces écrans consomment beaucoup d'énergie, ils sont smart. Le smart, c'est comme dans Smart City.
Et oui, et donc le Grand Lyon, alors une citation, le Grand Lyon ne peut pas rester à l'écart des évolutions en cours dans le domaine de la Smart City et se doit de pouvoir proposer aux citoyens et aux visiteurs des services connecté.
Là, le service.
Voilà, plaide donc Pascal Chopin, au siège de rue du Lac, au siège de la collectivité. On avance que rien n'est encore tranché à propos du prochain règlement intercommunal. Abandonner le déploiement des écrans numériques modifierait toutefois en profondeur le contrat signé avec JC Decaux. Sur le papier, l'hypothèse est possible. Ce type de mobilier est inscrit en tant que prestation supplémentaire éventuelle, ce qui signifie que l'attributaire du marché peut décider de ne pas activer cette prestation. Mais
il y a un mais, en fait. Si jamais il n'y a pas d'activation, évidemment, de cette prestation des panneaux numériques qu'on adorerait, et des vélos électriques, cela signifierait que la métropole toucherait 300 000 euros de redevances annuelles, là où elle aurait touché 1,4 million d'euros, calcule Claes, qui est toujours très très fan de ces panneaux. Mais nous pouvons tout à fait décider, à l'issue d'un débat politique, de prendre en charge cette somme, dit-il, on estime. Ce qu'il raconte, c'est qu'il dit quand même que ça va le faire. Et il y a son collègue Gilles Vesco. Donc Gilles Vesco, c'est le responsable du vélo, hein. C'est le responsable mobilité Vélov jusqu'en 2016, hein. Donc c'est quand même le type qui a participé au nouveau contrat, qui dit Sans panneau numérique, voyons. C'est 3% du parc publicitaire total, c'est pas Times Square non plus. Je dis pas que j'adore la pub, mais je préfère la pollution visuelle parce que je peux détourner le regard. La pollution dans mes poumons, je peux pas l'arrêter. Gilles Vesco, génie. Partisan d'un taux d'équipement de 100% vélo électrique, ce qui comprend visiblement rien à rien, c'est pas très lumineux comme idée. On laisse notre responsable du gaz de schiste vous expliquer pourquoi.
Non mais du coup, effectivement, je pense que en fait, ils se rendent pas compte qu'à côté, il y a la centrale du budget qui produit l'électricité, et le jour où elle va péter, ou le jour où il y a un souci de radioactivité, je pense qu'il pourra pas non plus l'arrêter.
Donc il pourra peut-être détourner le regard, il aura pas la
détourner le regard,
mais il pourra peut-être pas évoluer la réactivité. Ouais. Bref, Gilles Vesco, bon, lâche l'affaire. C'est good. Et donc on passe tout de suite à quelque chose qui est beaucoup moins favorable. Excusez-nous pour cette transition sans transition. Alors, on va vous parler de harcèlement sexuel. On en parle malgré tout relativement souvent parce que c'est un peu ennuyeux. Il s'est quand même passé quelque chose de positif dans le domaine du harcèlement sexuel. Récemment à Lyon, c'est même assez historique comme décision. C'est qu'en fait, la section disciplinaire de l'Université de Lyon 2 a décidé dans sa décision du 9 avril 2018, donc ça date un petit peu, mais elle est juste sortie récemment publiquement. Les faits, elle a reconnu en fait le harcèlement sexuel dans le cadre du travail, et l'emprise s'est exercée en fait en l'occurrence par un professeur sur une doctorante sous sa direction. Et c'est ça qui est assez historique. Cette section disciplinaire, donc l'Université Lyon 2, a prononcé à l'encontre de ce professeur 12 mois d'interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche, avec cette importante privation de la totalité de son salaire. Cette décision, elle est assez exemplaire à plusieurs égards. D'abord, sur la forme, il y a eu une véritable enquête, et la décision fait preuve d'une rigueur, notamment juridique, encore trop rare sur ce genre de cas. Ensuite, la section disciplinaire s'est appuyée sur le témoignage de la victime et notamment 3 enregistrements qu'a fait la victime de conversations téléphoniques pour constater que les faits rapportés concordent. Attentive au respect du droit et de la réglementation, la décision motive solidement la validité juridique de la prise en compte des enregistrements. Elle rappelle ainsi que, contrairement à ce qu'on objecte trop souvent aux victimes de harcèlement, on leur dit « mais est-ce que c'est vraiment arrivé ?» Et bien cette fois-ci, en fait, des preuves existent, le harcèlement est constaté, donc ça c'est quand même une vraiment bonne chose. En outre, la décision met en évidence que le harcèlement sexuel s'est produit dans la configuration, entre guillemets, habituelle, d'abus de pouvoir plus large de la part du directeur de thèse. Et enfin, il faut saluer la sévérité de la sanction prise, inédite pour des sections disciplinaires très souvent enclines à se contenter de sanctions symboliques en matière de violence sexuelle. Le nombre de professeurs des universités qui en profitent, ici comme ailleurs, est assez conséquent. Si cette décision est exemplaire, et donc surtout en comparaison à de nombreux dysfonctionnements qui caractérisent généralement les procédures disciplinaires, elle ne doit pas conduire évidemment à penser que tout est réglé en manière de lutte contre les violences sexuelles d'enseignement supérieur. Au contraire, elle doit être pensée comme un début. Surtout, il faut préciser que cette décision, il va en être fait appel. Le professeur a annoncé qu'il allait faire appel. Donc pour l'instant, elle est plutôt suspensive. Alors quand même, pour mettre en contexte, c'est quoi du harcèlement ? Ce qui est intéressant, c'est que du coup, la doctorante a enregistré, en fait, suite à des répétitions de harcèlement sexuel, elle a enregistré ce que lui disait son directeur de thèse. Et par exemple, le 24 mars 2017, il l'a appelé, puis au bout de 2 minutes de conversation, il ajoute une suggestion relative à sa tenue vestimentaire. Il dit à son étudiante, je cite, « Faites comme d'habitude, il faut que vous soyez bien élégante. » Voilà. Donc il précise des choses comme ça, il lui fait aussi lire des récits pornographiques. Et puis, il fait référence à sa tenue lors de rendez-vous qu'elle enregistre, en fait. Et puis, au terme de l'échange, il fixe un rendez-vous lors duquel la doctorante explique qu'en fait il lui a caressé l'épaule et la main et qu'il a collé sa cuisse contre la sienne. Et puis régulièrement, a priori, par exemple en rendez-vous, il lui imposait de se mettre avec lui derrière du même côté du bureau alors qu'il n'y avait par exemple aucune nécessité d'utiliser un ordinateur. Ce document, il est assez important, on peut le retrouver en ligne. Il a été mis notamment en ligne par le CLASH. Le CLASH, c'est le collectif de lutte antisexiste contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur, que vous pouvez retrouver sur clasches.fr, qui a mis en ligne l'intégralité en fait de ce jugement. On sait qu'il pourrait y avoir à Lyon et ailleurs de prochains conseils disciplinaires contre le harcèlement sexuel. Évidemment, rien n'est gagné, mais ça bouge enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et on vous parle maintenant de prison. Et notamment d'un rassemblement qui aura lieu à Lyon le 21 juin en soutien à Fabrice Borromé. Donc pour retracer un peu son parcours, Fabrice Borromé subit l'enfermement dans les quartiers d'isolement des prisons en métropole depuis 2012. Ces conditions de détention depuis 6 ans peuvent être qualifiées de torture, et ces traitements inhumains ont été mis en place par l'administration pénitentiaire après que Fabrice ait refusé de se soumettre à l'arbitraire carcéral qui lui interdisait d'assister à l'enterrement de son père en Guadeloupe. Parce que Fabrice, il est originaire de Guadeloupe, et depuis son incarcération, il ne demande qu'une chose, être transféré en Guadeloupe auprès de ses proches. Face au silence de l'administration, il s'est révolté de nombreuses fois pour se faire entendre, notamment avec des prises d'otages. Alors qu'il était entré en prison pour une peine de 8 ans, il a pris des rallonges de peine à l'appel. Il a aujourd'hui encore 30 ans à faire. C'est toujours la même chose avec l'administration pénitentiaire. Si tu refuses leur arbitraire, la répression est sans appel. Depuis un an, plusieurs articles de presse ont été écrits sur la situation de Fabrice, mais celle-ci n'a pas changé. La mesure d'isolement n'a jamais été levée. Au contraire, il a subi à Saint-Maur et à Moulins des conditions extrêmement difficiles, dignes des anciens QHC, quartiers de sécurité, qui ont été soi-disant abolis. Du coup, avec du menottage systématique, des escortes suréquipées et violentes, le refus de le laisser voir le médecin ou l'aumônier dans des conditions décentes, des repas jetés par la trappe. Il y a quelques mois, Fabrice a refusé de sortir de la douche, demandant à la direction de respecter ses engagements pour son transfert. La seule réponse a été de lui envoyer les ERIS, les GIGN de la prison, qui ont balancé une grenade assourdissante dans la douche de quelques mètres carrés. Ces violences de l'administration lui ont fait perdre l'huile d'une oreille. L'isolement carcéral, véritable torture, a des conséquences très graves sur sa santé et son moral. Fabrice a eu des attaques cardiaques, il se plaint de migraines permanentes, sa vue baisse, il s'exprime moins bien, il perd le goût de vivre. Ses agissements ignobles sont validés par le ministère de la Justice et des médecins complices. Le directeur de la maison centrale de Moulins, où Fabrice se trouve actuellement, avait promis un transfert en mars, puis avant l'été. Et maintenant il lui dit, dans l'été, pas avant septembre. Ces mensonges, ces promesses non tenues entraînent des faux espoirs qui le détruisent encore plus. Le directeur de la maison centrale de Moulins a assuré à Fabrice qu'il serait transféré avant l'été. C'est pourquoi un rassemblement est appelé le 21 juin, donc juste avant l'été, pour montrer à Fabrice la solidarité de toute personne qui souhaite y être. Et pour que le transfert soit mis vraiment en œuvre. Vous êtes invités le 21 juin à partir de 16h à vous rassembler au 1 cours Albert Thomas, du coup non loin de la direction interrégionale des services pénitentiaires. Il y aura des tables de presse, l'apéro, la représentation de la pièce de théâtre Pisser dans l'herbe qui a été écrite, co-écrite avec une ancienne détenue. Et discussion à Moulins, à la salle de quartier de Chartreux, à partir de 19h30, le lendemain, les vendredis 22 juin. Si vous y êtes ou si vous ne pouvez pas y être, il y a d'autres façons aussi de soutenir Fabrice, c'est de lui écrire. Donc, je vous donne l'adresse, c'est Fabrice Borromé, numéro d'écrou 15 96 4, maison centrale de Moulins, QI, 03 400 Yzeure.
Eh ben, merci beaucoup du coup pour toutes ces informations et ces moyens de contacter ou de soutenir Fabrice. Et tout de suite, on va donner la voix à la Pride de nuit de ce soir, 21h.
Pourquoi une Pride de nuit ? À l'heure où nous écrivons ce communiqué, notre camarade Moussa, militant à AIDS d'origine guinéenne, contraint de quitter son pays en raison de son orientation sexuelle, se trouve en détention provisoire. Pourquoi ? Le chef d'accusation évoque son refus d'embarquer à deux reprises pour retourner dans son pays d'origine où il risque la mort ou l'emprisonnement. Le 12 juin, son procès aura lieu et il risque l'expulsion ou la prison. En France, l'homosexualité n'est officiellement plus illicite ni illégale depuis 1982. Pourtant, Moussa est traité comme un criminel parce qu'il est homosexuel, noir et sans papier. Cette situation, comme tant d'autres, est une illustration des politiques racistes et néolibérales de merde. À l'occasion de cette deuxième Pride de nuit à Lyon, nous réaffirmons notre positionnement radicalement politique et revendicatif et voulons créer un nouvel espace de lutte. Pour autant, nous ne nous opposons pas à la Pride officielle, que nous appelons à rejoindre le lendemain, puisqu'elle couvre un large champ de lutte non hétérosexuelle et qu'elle reste un moment festif et politique, nécessaire surtout dans une ville rétrograde et bourgeoise comme Lyon.
Cependant, nous considérons que seule une Pride de nuit autonome et en non-mixité permettra d'envoyer un message sans concession contre la marchandisation et l'instrumentalisation de nos luttes. Nous refusons de servir de vernis friendly au fascisme d'État et à la violence néolibérale. La Pride de nuit n'est pas une gay Pride avec comme porte-parole des élites nationalistes, macronistes, blanches et bourgeoises. Nos fiertés ne sont ni patronales ni nationales. Nous ne voulons ni de la Marseillaise, ni des chars capitalistes ou d'un certain syndicalisme vendu, comme la CFDT, ni des flics, ni du flag à ceux de keuf LGBT. Nous voulons une marche à notre image de non-conformes et contestataires, héritière des émeutes de Stonewall, épisode de soulèvement populaire et d'autodéfense politique contre les forces armées de l'État policier et raciste. Nous revendiquons cette Pride de nuit comme un espace de solidarité entre les luttes, pour l'émancipation de tous, car nous sommes
féministes, nous luttons pour notre droit à tous à disposer de nos corps. Nous revendiquons l'avortement libre et gratuit, la PMA pour tous, ainsi que la GPA, la fin des mutilations des personnes intersexes, et que cesse la répression contre les travailleuses du sexe. Stop à la banalisation des violences faites aux personnes assignées et ou identifiées comme femmes. Le viol est un crime. Le 16 mai 2018, l'Assemblée nationale a voté une loi qui considère notamment le viol de mineurs sans contrainte, menace ni surprise comme une simple atteinte sexuelle avec pénétration, jugée comme un délit en correctionnel et non comme un crime qui doit être jugé aux assises. Les mots sont importants. Cette reformulation, à l'initiative du gouvernement Macron, qui a diminué le budget alloué à la lutte contre les violences sexuelles, piétine l'idée de consentement déjà trop peu présente dans notre société, renforce la culture du viol. Que les femmes soient trop couvertes ou pas assez, c'est à elles d'en décider. Le corps des femmes blanches, autant que celui des femmes non blanches, ne vous appartient pas. Elles en sont les seules détentrices.
Antiracistes, nous en avons assez du racisme d'État, de la discrimination liée au logement et à l'embauche, des difficultés de vie dans l'enseignement supérieur pour les personnes issues des quartiers populaires, de l'enseignement de l'histoire raciste qui oublie nos mémoires et écrase nos histoires, de la loi Auré sur la sélection qui méprise notre avenir, du profilage racial, contrôles aux faciès racistes, dont nous avons été témoins notamment à la précédente Pride de nuit, et dont nous, personnes racisées, non blanches, sommes les principales cibles. Il y en a assez des violences policières et de ces morts qui ne cessent d'augmenter depuis des années. Zied, Bouna, Théo et Adama, on n'oublie pas, on ne pardonne pas. On en a marre que l'on nous fasse sentir qu'ici n'est pas notre maison. Tant que nos corps grinceront encore, on vous rappellera sans cesse qu'il n'y aura pas de retour au pays, qu'ici, c'est chez nous. Anticolonialistes, nous en avons assez du traitement vis-à-vis des personnes migrantes, assez de ce colombe qui veut nous faire croire qu'il y aurait de bons et de mauvais réfugiés, assez de cette complaisance face aux milices et groupes d'extrême droite qui sont libres de leur mouvement quand il s'agit de barrer la route, agresser ou tuer, assez des politiques néocoloniales en France comme à l'étranger, de l'exotisation des corps des personnes non blanches dans la communauté LGBT comme de leur déshumanisation, de l'instrumentalisation de nos vies et à des fins racistes. Homonationalisme ou pinkwashing, on n'en veut pas. Les migrants-migrantes sont ici les bienvenus, n'en déplaise à votre inhumaine envie d'écraser leur vie. La libre circulation des flux des personnes n'est pas uniquement valable lorsqu'il s'agit de faire rouler la machine capitaliste.
Anticapitalistes, nous combattons le gay corporate, le consumérisme, les politiques antisociales qui aggravant la pauvreté et la précarisation contribuent à l'isolement et à la vulnérabilité des plus fragiles d'entre nous, notamment les personnes trans, racisées, travailleuses du sexe, personnes en situation de handicap, séropositives, neuroatypiques, et les privent d'accès aux droits au logement, au travail, à des soins décents. Nous refusons une gentrification de nos luttes, prête à jouer la caution d'un libéralisme économique dégueulasse. Nos luttes antiracistes, trans, PD, bi, green, intersexes, queer, féministes, ne sont pas des luttes secondaires ou parallèles à la lutte anticapitaliste. Nous pensons lutte globale, nous pensons imbrication des oppressions, nous pensons lutte intersectionnelle.
Enfin, en tant que personne queer, nous dénonçons évidemment les injonctions à l'hétéronormativité et à la norme cisgenre, les catégories binaires et la queerphobie qui excluent, poussent des jeunes comme des personnes âgées à la rue ou au suicide. On n'en peut plus de ces discours stigmatisants et haineux qui sont partout dans la rue, à l'école, chez les psys, les médecins, en prison, dans les médias et dans les livres d'histoire. Dans les quartiers chics aussi. La manif pour tous, LOL, est descendue dans la rue professer des insultes contre nous. s'insurger contre un peu de sensibilisation aux stéréotypes de genre, alors que le cardinal Barbarin, pour ne citer que lui, ferme sa gueule depuis des années sur des actes avérés de pédophilie commis par ses subalternes. On n'en peut plus des violences spécifiques subies par les personnes queer. Et lorsqu'on apprend, encore, que même dans des fêtes que l'on croyait les nôtres, un copain a été tabassé pour avoir défendu un espace non mixte, que les agressions et les viols continuent de se multiplier, notre rage n'en est que plus grande. Non seulement nous continuerons de danser, de vivre sans baisser la tête, mais nous riposterons tant qu'il le faudra. Nous vous invitons tous à diverger, à se montrer, crier, danser avec nous le vendredi 15 juin.
Pourquoi une Pride de nuit en mixité choisie ?
Trans, PD, bi, gwyn, intersex, butch, folle, camionneuse, pédale, nous revendiquons de faire du tort aux luttes institutionnelles qui ne nous ressemblent pas. Nos vies, nos désirs, nos choix ne rentrent pas dans vos catégories, ne se laisseront pas mater. Nous ne sommes ni capitalisables, ni gouvernables.
Pourquoi nous voulons que cette Pride de nuit soit en mixité choisie entre personnes queer ?
Parce qu'il est important de reprendre la rue, la nuit, ensemble, rien que nous. Parce qu'au vu des récentes, mais permanentes agressions transphobes, homophobes, sexistes ou racistes, on veut montrer à toute la ville à quel point on est forte et nombreuse. Parce que nous sommes trop souvent silenciés ou invisibilisés, et que nous voulons récupérer la narration de nos vies. Parce que dans ce but, la non-mixité est un outil nécessaire, et qu'on a très peu d'espace pour se rencontrer et se revendiquer. Nos alliés féministes et autres non-conformes comprendront, et on sera contente de les retrouver dès le lendemain, pour un cortège radicalement flamboyant et mixte lors de la Pride de jour.
Pour que cette Pride de nuit soit réellement accessible et belle et vénère pour toutes les personnes concernées, aux personnes en situation de handicap qui veulent participer, on réfléchit déjà à comment rendre cette manifestation la plus accessible possible. Mais n'hésitez pas à nous contacter, message privé aux organisateuristes de l'événement par exemple, pour nous dire vos besoins spécifiques, nous alerter sur des choses que nous n'aurions pas encore prises en compte.
Vous nous avez imposé l'hétérosexualité comme seul modèle de sensibilité, de sensualité et de sexualité. Les garçons aiment les filles aiment les garçons. Votre conception de la...
Et on va continuer dans la rubrique locale. On va passer à Vanvelin, où les enseignants et enseignantes des écoles primaires ainsi que les familles des élèves se mobilisent à nouveau. Alors, on vous avait déjà parlé il y a plusieurs mois des mobilisations des écoles à Vanvelin, notamment exactement il y a un an, en juin 2017. Les enseignants et enseignantes revendiquaient plusieurs choses, notamment plus de moyens pour l'aide et l'accompagnement adapté des enfants en difficulté, donc des enseignants spécialisés, des orthophonistes, des médecins scolaires en plus, des places en CMP, des CMP qui sont en train de fermer de plus en plus de places. Il faut plus d'un an d'attente pour un enfant pour avoir son premier rendez-vous, des places en CESAD, des places en CLIS, des classes spécialisées. Et aussi, déjà, il y a un an, les enseignants, ils protestaient contre la soi-disant réforme du CP à 12 élèves, qui, de fait, vu qu'elle n'était pas associée à une augmentation de moyens, elle comportait une restriction de la liberté des enseignants à organiser leur classe et la suppression du professeur supplémentaire là où il existait, dans les écoles de REP+. Donc, face au silence des administrations, les enseignantes avaient appelé à une grève à la rentrée. Du coup, il y a eu plusieurs grèves de fait, une grosse mobilisation à Vanvelin, toujours pas de réponse. Du coup, un an après, ils constatent qu'il n'y a pas eu de changement. Et ils peuvent aussi faire un bilan des classes du CPA 12. Effectivement, la disparition des profs supplémentaires a comporté des gros problèmes, des restrictions de la liberté pédagogique. Et face à tout ça, la seule réponse du gouvernement est attendez le CPA 12, vous allez voir, ça va tout résoudre, ça va être génial. On a fait ça, donc ne nous en demandez pas plus, c'est déjà super. Donc, en avril, la mobilisation a repris à Vanvelin. Tout est parti d'une école qui s'est mise en grève, où les enseignants dénonçaient une situation de détresse extrême de la part du personnel et de la part des enfants, parce que du coup, un certain nombre d'enfants en situation de grandes difficultés scolaires n'avaient pas de prise en charge adaptée. Du coup, tout était à gérer par les enseignants qui n'avaient pas les moyens ni les compétences pour gérer ce type de situation. Et cette grève a relancé le mouvement un peu dans toutes les écoles de Vaux-en-Velin qui ont commencé à se réunir en assemblée générale. Elles ont écrit une lettre de soutien à l'école en grève qui a été envoyée à l'inspecteur de l'académie, sans qu'il y ait de réponse, bien évidemment. Du coup, depuis la mi-mai, l'initiative a été de faire un rassemblement par semaine, le vendredi à midi, devant l'inspection. Du coup, tous les enseignants qui souhaitaient être grévistes se rassemblaient le vendredi devant l'inspection. Toujours aucune réponse. Donc, par la suite, il y a eu une journée de grève le 5 juin. Vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais sachez que le 63% d'enseignants et enseignantes de Vaux-en-Velin étaient grévistes ce jour-là. Donc, c'est quand même des chiffres très, très importants. Il y a eu 8 écoles fermées. Et du coup, une délégation, la veille, avait pu être reçue par l'inspection académique. Ils demandaient encore plus de soins, plus d'aide, plus de structures qui puissent soutenir les enfants en difficulté à l'intérieur et à l'extérieur des écoles, et plus de souplesse dans l'organisation des classes et dans les choix pédagogiques. Donc, évidemment, pas de résultat. Le jour de la grève, il y a une délégation qui a été reçue par la mairie aussi. Parce qu'il faut savoir que quand même, à Vaux-en-Velin, depuis quelques mois, il y a eu plusieurs cours-poursuites avec armes à feu, des coups de feu. C'est une situation de tension sociale assez importante pour laquelle les familles se mobilisent en demandant à la mairie d'intervenir. Donc, la seule réponse de la mairie a été de... armer la police, alors que les familles et les enseignants mettent en avant le lien entre détresse à l'école et détresse des enfants grandissants, des adolescents, des adultes qui grandissent dans ce climat de manque de moyens, de manque d'aide, de manque de soutien. Donc voilà, la journée de grève, pour l'instant, elle a pas eu de réponse de la part de l'inspection ni de la mairie de Vaux-en-Velin qui soit satisfaisante. Donc une AG est prévue le 25 juin par les enseignants et enseignantes de Vaux-en-Velin pour organiser un beau mouvement à la rentrée scolaire 2018. Donc on vous tiendra bien sûr au courant des prochaines actions et on vous invite à y participer.
On vous invite à participer, et pour celles qui voudraient participer à la Pride de nuit de Lyon ce soir, on a passé l'appel, mais on n'a pas précisé le lieu et l'heure. C'est le rendez-vous, c'est 21h sur la place des terreaux, 21h sur la place des terreaux ce soir pour la Pride de nuit.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a d'un côté un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Révolution ! Révolution ! Révolution ! Révolution !
Révolution ! Et la façon de voter, c'est encore la nôtre. C'est de prendre un grand pavé et d'en balancer.
Et dans la rubrique nationale, on commence par une bonne nouvelle, grève où les grévistes du coup de l'hôpital psychiatrique de Rouvray, qui est près de Rouen en Normandie, ont eu enfin gain de cause. Et ça n'a pas été facile parce que donc pendant 2 mois et demi, les salariés grévistes se sont mobilisés dans cet hôpital psychiatrique par des manifestations, occupations, interruption de la visite présidentielle du CHU de Rouen pour dénoncer les conditions de prise en charge des patients et leurs conditions de travail. Ils demandaient entre autres la création de 52 postes. Donc c'est pas rien, ils dénonçaient quand même un manque d'effectifs très très important. Sans réaction de la part de l'Agence régionale de santé, qui était leur principal interlocuteur. Le 22 mai, 7 salariés ont entamé une grève de la faim. L'évacuation par le SAMU de trois d'entre eux le lundi 4 juin a fait encore monter la tension d'un cran. Le 7 juin au matin, une manifestation mêlant soignants et cheminots a bloqué la zone industrielle et le pont Mathilde jusqu'à ce que Christine Gardel, directrice de l'ARS, l'agence régionale de santé, accepte de revenir à la table des négociations. Donc un protocole d'accord a été signé le vendredi 8 juin. Et les grévistes ont obtenu gain de cause sur certains points, notamment la création et le financement de 30 postes sans que ces postes soient retirés à d'autres établissements de la région. Parce qu'au préalable, les salariés avaient refusé une première proposition qui était de 40 postes, mais redéployés à partir d'autres hôpitaux de la région. Ils ont aussi obtenu l'attribution d'une unité d'hospitalisation pour les adolescents et adolescentes. Et les postes nécessaires à la création de cette unité seront des postes aussi supplémentaires, au moins 10. Et il y a aussi le projet restant à finaliser d'ouverture d'une UHSA, unité pour détenus. La détermination de ces salariés a fait reculer le gouvernement représenté par l'organisme de tutelle, l'ARS. La crise de Rouvray est symptomatique de la crise du secteur de la santé. À force d'économies drastiques, de diminution de personnel, de management destructeur, les conditions de travail des soignants, comme les conditions d'accueil des patients, sont devenues indignes. On peut parler de maltraitance institutionnalisée dans les hôpitaux psychiatriques comme dans les EHPAD. Dans cette situation extrêmement tendue, l'ARS locale a refusé jusque dans les derniers jours de s'asseoir à la table des négociations. Elle déclara, et c'est assez impressionnant d'entendre ce type de propos, que les 52 postes réclamés par les grévistes ne faisaient que correspondre à l'absentéisme du personnel de Rouvray. Elle en déduisait qu'il fallait remettre les malades au travail, et non pas que les conditions de travail étaient excessivement délétères. Là-bas, comme partout, les salariés en lutte se heurtent au silence méprisant, aux éléments de langage mécaniquement répétés des hiérarchies stupides. Le fossé toujours grandissant entre les effectifs soignants, qui ont augmenté de 0,5% entre 2014 et 2016, et les hospitalisations, qui ont augmenté de 8,4% sur la même période, aboutit à une totale saturation du centre hospitalier. Là, je cite un médecin de l'hôpital psychiatrique de Rouvray, qui dit que chaque matin, lorsque le service se réunit, on se demande lequel de nos patients est le moins malade pour libérer un lit afin de pouvoir en faire entrer un autre. On les fait sortir alors qu'ils ne sont pas stabilisés. Et ils reviennent ensuite dans un état plus grave, mais dans l'intervalle, ils ont libéré un lit. Cette évolution est propre à l'organisation de la psychiatrie publique, domaine totalement abandonné depuis la fin des années 90. À cela s'ajoutent les problèmes auxquels se heurtent tous dans le secteur hospitalier. Au nom de l'efficacité, du nouveau management, de la tarification, des économies, le monde hospitalier vit depuis des années sous tension. Les effectifs fondent comme neige au soleil à chaque réorganisation. Du coup, on peut saluer vraiment cette lutte unitaire et courageuse de Rouvray en se rappelant quand même que 30 postes pour 15 jours de grève de la faim, c'est quand même cher payé. Et pensez à tous les autres sites des hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux en général où il y a beaucoup, beaucoup de salariés en souffrance, en grève et qui essaient de, comme les salariés de Rouvray, d'avoir une augmentation d'effectifs pour améliorer les conditions d'accueil des patients.
Et big up à la CGT Vinatier.
Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Ça pue un cochon.
Violence policière. Canu Info.
La police fusille, la police assassine. Qu'est-ce qu'on débrouille? Où sommes la police? La police mutile.
Violence policière.
Et nous voilà de retour en studio pour, comme vous l'avez deviné grâce au jingle, vous parler des violences policières. Et on vous en parle ce soir parce que le site Bastamag a sorti un nouveau site, un nouveau classement qui reprend notamment toutes les personnes tuées par la police. Tué par balle, mort par asphyxie à la suite d'une interpellation. Tué dans un accident en tentant d'échapper à un contrôle, retrouvé inerte en cellule de dégrisement. Ces affaires recouvrent des situations de nature très différentes. Mais le journal en ligne Bastamag a créé une base de données, inédite en France, qui a tenté de classifier les interventions policières fatales. En attendant que l'inspection générale de la police nationale, la police des polices, livre d'ici 2019 ses propres données, c'est au moins ce qui a été annoncé, les informations sont ici précieuses car trop peu nombreuses. Le classement est multiple, on retrouve l'âge de la personne décédée, son sexe et le lieu du décès. La personne tuée, si elle était armée ou non, avait-elle attaqué ou non les forces de l'ordre, tentait-elle de fuir ou était-elle déjà en état d'arrestation, quel type d'unité est responsable de l'intervention. Il faut quand même souligner que d'autres classements ont déjà été faits ces dernières années, notamment par le collectif Urgence notre police assassine, que vous pouvez retrouver également sur Internet. Ces recensements doivent nous aider à comprendre dans quelles conditions l'action des forces de l'ordre conduit à une issue mortelle pour dénoncer cette violence, s'en protéger et la combattre.
Au moins 478 personnes sont décédées en 40 ans. Il y a eu énormément de morts suite à des interactions avec la police, soit en moyenne, c'est 478 personnes en 40 ans. Une personne tuée par mois et 2017 constitue malgré tout un triste record avec 35 morts.
Et du coup, quel type de missions se sont soldées par le décès d'un suspect ?
Les opérations antiterroristes ont un statut particulier, l'option de tuer étant pour les unités impliquées clairement assumée. Elles restent néanmoins exceptionnelles. 19 suspects ont été abattus dans ce cadre.
C'est pratiquement rien par rapport aux chiffres qu'on a entendus. Du coup, quelle est la principale cause de la mort ?
L'ouverture du feu par les forces de l'ordre dans plus d'une affaire sur deux est la principale cause. Sur un échantillon de 160 personnes abattues, 36% ont été atteintes à la tête, 23% au thorax, 17% dans le dos, 8% au cou et 7% dans le cœur. Voici des proportions qui ne confirment pas vraiment le but de désarmer les personnes et qui posent des questions sur la question de la légitimité des agents à faire de la légitime défense. Un agent peut-il être présumé en légitime défense et ainsi échapper à d'éventuelles sanctions le temps que la justice se prononce s'il ouvre le feu sur une personne non armée, ce qui se produit dans une grande majorité de cas.
Du coup, c'est quoi les autres causes de mort ?
La deuxième cause de mort, c'est les accidents routiers qui représentent le 14% des cas. Ils surviennent le plus souvent lorsque une ou plusieurs personnes à bord d'une voiture ou conduisant un deux roues tentent d'échapper à un contrôle. On se souvient à Lyon de la mort de Mehdi en décembre 2016, alors qu'il rentrait en scooter avec deux amis de la fête de naissance de sa fille, née 15 jours plus tôt. Cette mort qui en rappelle beaucoup trop d'autres. Celle de Tina et Raouf, tuée en 2007 à Saint-Fons lors d'une poursuite. Ou encore la mort de Mouchine et Lakami, la même année à Villers-le-Bel, renversée par une voiture de police. Ou encore celle de Malek en 2010 à Ouapi, près de Metz, dans des conditions similaires à celles observées ce dimanche à Vénissieux. Ou encore la mort d'Eliès, 14 ans, à Romans-sur-Isère en février 2015. Sans oublier Thomas Claudio, percuté par une voiture de police le 6 octobre 1990 à Vaumelin, alors qu'il roulait en mobylette.
On meurt aussi entre les mains de la police, non ?
Et oui, une autre cause récurrente des décès, ce sont les malaises, avec de gros guillemets. Une soixantaine de personnes sont ainsi décédées alors qu'elles étaient entre les mains des forces de l'ordre, que ce soit dans un véhicule de police, lors d'une garde à vue ou en cellule de dégrisement. Les autorités n'hésitent pas à invoquer une, je cite, « mort naturelle » liée à un éventuel antécédent de santé. Ces malaises, toujours avec des guillemets, sont souvent consécutifs à une arrestation musclée sur un trottoir ou dans un fourgon de police. En cause très souvent la technique dite du pliage ou du plaquage ventral. Interdite dans plusieurs pays en raison de sa dangerosité, cette clé d'étranglement est toujours autorisée en France. Elle est pourtant à l'origine de nombreuses interventions fatales. La dernière, c'est Adama Traoré qui a été tué en 2016 à Beaumont-sur-Oise.
Mais alors, est-ce qu'il y aurait un portrait type de personne tuée ?
L'éventail des personnes décédées apparaît large, tant en termes d'âge que de situation sociale. Des petits Gillian et Melvin, 3 ans et 5 ans, tués par leur père policier à Noyon, dans l'Oise, en 2017, jusqu'à Joseph Petit-Huguenin, retraité de 77 ans, retrouvé son vieux commissariat d'Amandie dans le Doubs, en 2010. D'Oissy Lamagerie, tunisienne sans papier qui tombe du 8e étage en fuyant un contrôle à Rieux-la-Pape, dans le Rhône, en 1987, à Jérôme Laronze, agriculteur tué en pleine campagne de Saône-et-Loire par des gendarmes en 2017.
Néanmoins, on peut quand même un peu dégager des types de personnes qui meurent plus fréquemment que d'autres sous les coups de la police. Par exemple, on se rend compte en regardant cette base donnée de Bastamag que 94 des personnes tuées sont de sexe masculin et qu'il y a 28 femmes en 40 ans qui ont été recensées par le site, que la moitié des morts recensées ont moins de 25 ans. Dans une décennie, on trouve également de plus en plus souvent des personnes considérées comme atteintes de troubles psychiatriques appréhendées en crise de démence, souvent munies d'une arme blanche. Les policiers apparaissent mal préparés à gérer ce type de situation, l'option d'ouvrir le feu étant, semble-t-il, fréquemment retenue. Sur 4 décennies, un profil de personnes décédées se dessine néanmoins. Comme nous l'avons vu, il s'agit souvent d'un homme âgé de 17 à 25 ans, qui porte fréquemment en outre un nom à consonance africaine ou maghrébine, et habite un quartier populaire, en périphérie d'une agglomération comme Paris, Lyon ou Marseille. La moitié des affaires se concentrent dans ces 3 agglomérations, dont 38 en Île-de-France, alors que la région abrite moins de 20% de la population. 2 fois plus de personnes sont tuées dans le cadre d'une intervention policière dans les banlieues périphériques, des quartiers souvent populaires, où sévit le chômage de masse et dont les populations demeurent victimes des discriminations à l'emploi ou au logement.
Et est-ce qu'il faut y voir par ailleurs la perpétuation d'un imaginaire de techniques d'encadrement liées à l'histoire coloniale et à l'imaginaire que celle-ci a perpétué ?
Alors un exemple, les contrôles d'identité. La pratique a longtemps ciblé en priorité les Algériens de Paris en période de décolonisation. La BAC, très souvent impliquée dans ces contrôles, est l'héritière indirecte des brigades nord-africaines. Emmanuel Blanchard souligne en outre que la France est indéniablement un des pays européens où la souveraineté policière en matière de contrôle d'identité est la plus grande. Donc aujourd'hui encore, les personnes perçues comme noires ou arabes ont beaucoup plus de risques de se faire contrôler sur les contrôles au faciès. Or, les contrôles d'identité sont à l'origine de près d'un quart des morts. L'immense majorité des contrôles d'identité ne débouche sur aucune autre suite policière que les éventuels incidents créés par les contrôles eux-mêmes. Donc refus d'obtempérer, par exemple, outrage et violence à agent.
Mais donc, comment à l'avenir limiter le nombre d'interventions policières fatales ? Au-delà de la sanction des agents reconnus coupables d'une faute et d'une formation plus adaptée des fonctionnaires, n'est-il pas urgent d'interroger la responsabilité de l'État ?
Alors ça, c'est la question que pose le site Bastamag, et du coup il y répond en utilisant les mots de Fabien Jobard, chercheur au CNRS, qui dit « Aujourd'hui, la tentation est forte de reporter sur les forces de police une responsabilité qui est celle du gouvernement, pouvant couvrir aussi bien le fait de donner l'ordre d'agir que de s'abstenir d'en donner. » Ici, nous ne reprendrons pas tout à fait les conclusions de Bastamag, qui appelle à la nécessité d'engager la responsabilité de l'État. Sa violence semble au contraire constitutive d'un État qui l'assume pleinement. Et du coup, on a plutôt envie de vous dire d'aller par exemple lire le livre d'Elsa Dorlin, qui vous parle d'une philosophie de la violence, et qui montre à quel point la violence est constitutive de nos États, même de nos États modernes, et que par exemple l'autodéfense permet d'y répondre et de s'organiser collectivement face du coup à ces violences parfois mortelles de l'État.
Tenue info.
Partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet.
Rubrique
Crève. Vive la République. Vive la France.
Les mouvements sociaux.
Mais notre règne arrivera. Votre règne finira.
Rien et personne ne pourra étouffer une révolte. Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les
ennemis. Et nous lèche les bottes.
Et de retour à l'antenne. Alors c'est difficile de vous parler de toutes les manifestations et de l'ampleur du mouvement social qui existe, si n'est par le nombre, au moins par le nombre de manifestations et de secteurs qui sont en grève et qui sont toujours en grève. On tient à le souligner, mais on avait envie aujourd'hui de vous parler du secteur de l'énergie, dont on trouve qu'on ne parle pas assez, puisque contre la privatisation de certains secteurs de l'énergie, 147 sites d'Enedis, l'ex-GDRF et Engie, ex-EDF, sont en grève. Tandis qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer le lancement d'une vague de privatisation, donc notamment de l'ex-EDF, c'est un vaste mouvement de grève et d'occupation déclenché à Marseille en avril dernier qui s'est répandu comme une traînée de poudre. Et ce mercredi, par exemple, 140 sites étaient touchés par la grève, dont une centaine bloqués contre la casse des statuts et des conditions de travail et pour la défense d'un service public de l'énergie, à l'heure où le prix du gaz risque encore de grimper de 6% au 1er juillet.
Cette grève se poursuit encore actuellement. Les salariés de l'énergie se mobilisent donc depuis avril pour défendre l'accès aux énergies pour toutes et tous et réclamer l'arrêt des suppressions d'emplois. Les sites de Saint-Étienne, après celui de Marly ou Maubeuge dans le Nord, de Magnanville ou d'Hénin-Beaumont en Île-de-France, ou encore à Vénissieux dans la banlieue lyonnaise. En tout, du coup, ce sont environ 150 sites qui ont appelé la grève depuis mercredi. Cette vague de mobilisation de l'énergie est partie il y a plusieurs semaines donc de Marseille, où les gaziers et les électriciens de la cité phocéenne étaient décidés à rejoindre les cheminots. Peu médiatisée, elle a pourtant éclaboussé sur son passage le Premier ministre, Édouard Philippe, lors de sa visite à Toulouse. Le bras droit du président a dû présenter un discours sur le pacte financier avec Toulouse Métropole a cappella, faute de jus pour le micro. Les électriciens avaient coupé l'électricité spécialement pour sa venue. Une manière aussi pour les salariés de l'énergie de manifester leur soutien aux 200 cheminots et travailleurs hospitaliers venus l'interpeller. À l'image de celle de Toulouse, les actions des électriciens peuvent prendre la forme de coupures de courant ciblées, notamment lorsqu'il s'agit de marquer un coup politique. Mais aussi celle d'une généralisation du passage en heure creuse pour les usagers, à l'image des actions Robin des Bois menées durant la loi travail au printemps 2016. Plus de 80 sites GRDF et d'Enedis sont actuellement occupés par les agents en lutte. Les agents se sont invités également dans une séance du CCE du GRDF pour remonter leurs inquiétudes. Parmi les revendications de cette mobilisation, le rejet de la marchandisation du service public de l'énergie. En effet, les grévistes dénoncent les politiques mises en place par les directions des deux entreprises, qui sont toujours à capitaux publics, mais ne relèvent plus d'un EPI. Pour Engie, le président lui-même l'a annoncé. Avec la Française des Jeux et l'aéroport de Paris, Engie va être vendue à des capitaux privés. Avec elle, les barrages hydrauliques et l'entreprise de réseau et transport d'électricité, ce que les grévistes dénoncent. Ce sont également les conditions de travail qui sont directement visées par les directions. Outre la perte du pouvoir d'avoir lié à la hausse de la CSG, Engie et Enedis externalisent de nombreux services, ont de plus en plus recours à la sous-traitance et à l'intérim, au détriment des embauches en CDI. Et contrairement aux arguments qui sont régulièrement servis en faveur des privatisations, cette dégradation des conditions de travail va directement dans les poches des dirigeants, en alimentant les profits, puisque les prix, eux, que ce soit dans l'électricité ou dans le gaz, n'ont pas cessé d'augmenter. L'annonce de la suppression de 2500 postes d'ici 2021, liée à l'instauration, entre autres, des très controversés compteurs électriques Linky, a sans doute été la goutte de trop. Face à ce constat, et depuis plus d'un an, les agents se sont lancés dans la mobilisation. Tous les mois, ils enchaînent les dépôts de préavis de grève, d'une nationale au local. À l'entreprise, ils adressent plusieurs revendications, dont notamment l'intérêt général et le besoin d'un vrai service public de l'énergie, l'arrêt des suppressions d'emplois, la réinternalisation des activités sous-traitées, l'embauche de salariés au statut des IEG, des augmentations salariales, une réelle politique industrielle des entreprises pour répondre aux missions et valeurs du service public et défendre les activités sociales. Plutôt que de leur répondre, les directions des boîtes ont décidé de prendre des mesures disciplinaires à leur encontre. Une situation totalement inacceptable. Un silence des dirigeants, auquel fait écho celui du gouvernement, mais qui ne pourra plus très longtemps faire comme s'il ne voyait pas la traînée de poudre des électriciens et des gaziers qui se répand. Le Front social anti-Macron, ouvert ce printemps, n'est décidément pas en voie de se refermer.
Et on continue dans la rubrique nationale et on vous parle de la frontière. La frontière franco-italienne, de laquelle malheureusement on vous parle bien souvent. Après la marche du 22 avril de Montgenève à Briançon, où entre autres il y a eu trois arrestations quand même, la situation des migrants et migrantes à la frontière reste dramatique. Trois personnes ont été retrouvées mortes dans la vallée, tuées non par le froid, mais par la répression policière depuis le 22 avril. Et c'est dans ce contexte que s'est passé Passa Montagna, un camp itinérant de trois jours du 8 au 10 juin contre les frontières, qui partait de Mélézette en Italie, passant par l'école de l'échelle et arrivant en Briançon. Trois jours collectifs et autogérés de marche, mais aussi de discussions et de réflexions autour de ces frontières, réunissant des personnes italiennes, françaises et d'ailleurs, luttant contre les frontières. Et du coup, on avait envie de vous lire un texte qui a été écrit suite à ces trois jours de réflexion et de lutte contre les frontières. Nous avons traversé cette ligne imaginaire appelée frontière pour réaffirmer que nous ne la reconnaissons pas. Nous n'avons demandé les papiers de personne. Contre tout système de division, de catégorisation et de sélection, contre le dispositif répressif qui commence dans les pays d'origine, que les États occidentaux colonisent et exploitent encore et toujours, dans les centres d'accueil, dans les centres de rétention, des rafles en ville jusqu'à arriver à ces frontières faites d'uniformes, de gendarmes et de militaires. en passant par les villages de la vallée de la Clarée, des interventions au micro, de la musique, des chœurs, quelques tags à terre, des affiches antifascistes collées.
Nous n'avons pas oublié les responsables des trois morts à la frontière du mois dernier, ni les délateurs de Génération Identitaire qui s'amusent à dénoncer les migrants de passage. Nous n'avons pas non plus oublié le bras armé de cette frontière, les femmes et les hommes en uniforme qui poursuivent chaque jour les sans-papiers, considérés moins dignes qu'une quelconque marchandise, qui circulent chaque jour d'un côté à l'autre de la frontière.
Pendant ce temps-là, le gouvernement italien, avec son ministre de l'Intérieur toute vervêtue, s'amuse à politiquer sur le dos des exilés, en fermant tous les ports et en bloquant les bateaux de celles et ceux qui fuient en cherchant une autre vie. Ce jeu politique nous dégoûte. Au terme de ces trois jours, nous sommes toutes et tous arrivés à Briançon. Les gouvernements et les puissants ferment les frontières. Nous, avec nos pratiques, nous les avons ouvertes et nous continuerons à le faire.
Ces trois jours sont passés et le dispositif aux frontières continue son opération sélection, devenue meurtrière depuis longtemps. Une personne a été tabassée par la police aux frontières l'autre nuit, après avoir été attrapée par la police pendant qu'elle essayait d'arriver en France. Elle a été tabassée parce qu'elle ne voulait pas être refoulée en Italie ni signer les papiers de refus d'entrée. Ces dernières semaines, celles et ceux qui tentent de passer la frontière se retrouvent de plus en plus souvent menacés par les armes des gendarmes et des militaires qui menacent de faire feu sur celles et ceux qui n'acceptent pas les intimidations. Dans les derniers jours, de nombreuses personnes mineures ont été repoussées malgré le fait que leur loi préconise le contraire. Hier, un jeune homme de 17 ans, gravement malade, a tenté deux fois d'arriver à la PAF pour se faire emmener à l'hôpital. Il voulait être pris en charge par le système français après des mois de maladie non soignée dans les centres d'accueil italiens. Il avait du mal à tenir debout. Ils lui ont dit qu'ils l'emmèneraient tout de suite à l'hôpital. Au lieu de ça, ils l'ont trompé et lui ont fait signer un papier dont il ne connaît pas le contenu avant de le ramener en Italie.
Notre colère ne s'apaise pas. Au contraire, elle augmente. La militarisation continue à tuer. Les néofascistes ne s'en sont pas encore allés. Nous ne laisserons pas s'évaler aux mains de la militarisation qui continue à tuer, aux groupes fascistes qui continuent à tenter de s'insinuer dans ces territoires. Nous resterons sur ces montagnes, nous les traverserons et nous continuerons à lutter afin que des frontières ne restent que les débris.
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui, un russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et on commence quand même par vous rappeler qu'à 21h, il est toujours possible de rejoindre la Pride de nuit en mixité choisie LGBT, queer, travailleurs, travailleuses du sexe à 21h, donc place des terreaux. Et voilà pour ce soir. Sinon, à partir de demain, alors écoutez, on va vous faire un agenda pour le coup sur un territoire vaste parce qu'on a envie de vous proposer des choses à Vénissieux pour commencer, mais aussi partout en France. Pour commencer par Vénissieux, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a un appel à soutien pour le 9e jour de grève chez Enedis, puisque plus de 100 sites sont bloqués en France, on vient de vous en parler. Donc depuis 9 jours, ce sont plus de 100 sites Enedis qui sont en grève en France contre l'externalisation de leur activité et pour une hausse de leur salaire. Les piquets de grève se renforcent, donc à Vénissieux aussi. Ce week-end, les salariés seront heureux que vous leur rendiez visite à toute heure, et particulièrement, si vous en avez l'envie, à l'occasion du match France-Australie qui sera retransmis en direct sur la place. Plutôt d'écouter les radios déblatérées autour du foot actuellement, pourquoi ne pas lier votre passion cachée du football et vos envies de lutte et de grève en allant à Vénissieux. Rendez-vous à partir de 11h30, Germaine Tillon, proche de la station BP.
Et puis on vous en a parlé ce soir, on vous en parle souvent, le gouvernement, les pouvoirs locaux continuent de taper sur la gueule extrêmement violemment de toutes les personnes qui ressemblent de près ou de loin à des exilés ou à des migrants-migrantes. Et demain, où ça se passe ? Ça se passe dans la Drôme, si vous voulez aller vous bouger contre ça, puisqu'il va y avoir la fermeture du centre d'accueil d'orientation de la Drôme. Elle est programmée pour bientôt et demain à Alex. Donc ça s'écrit comme le prénom, mais avec deux L, A-2-L-E-X. Il y a un rendez-vous devant la mairie à 14h, demain samedi.
Et du coup, toujours samedi, eh ben, y a un gros rendez-vous à Bar-le-Duc pour une journée contre la poubelle nucléaire. Donc la poubelle nucléaire, eh ben, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le procès CIGEO, c'est à Bure, etc. Et du coup, ça va se passer, il y aura deux temps. Il y aura d'abord le matin pour discuter et réfléchir, et ensuite l'après-midi pour agir. Pratique. Et voilà, tout à fait. Donc le matin, c'est à partir de 10h et l'après-midi, c'est à partir de 14h30. Et voilà, tout c'est Bar-le-Duc.
C'est Bar-le-Duc, c'est à 4 heures de voiture de Lyon, un peu moins.
Voilà, vous avez largement le temps d'y aller pour arriver à 10h.
Et puis on va devoir enchaîner à la place de notre camarade. Ensuite, après le samedi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le dimanche 17 juin, qu'est-ce qui se passe?
Oui.
C'est le festival.
Alors, j'ai demandé des précisions parce que j'espère ne pas dire des bêtises. Mais si j'ai tout bien compris, le dimanche 17 juin, dans le cadre du festival Antipasaraquel, qui aura lieu du 2 juin au 8 juillet, à la Plume Noire, il y aura la projection du film Pride à 15h30. Donc, le 17 juin à 15h30. Et du coup, ce festival antipatriarcal, il est organisé par qui ? Il est organisé par la commission antipatriarcale de la coordination des groupes anarchistes avec le planning familial, les méduses de la MSG et le réseau des femmes afrodescendantes.
Et puis avant de vous laisser avec Noise Pollution, on a quand même envie de vous parler de deux manifestations, de rendez-vous qu'il y aura à Lyon. Le premier, le lundi. Lundi, il y a un appel unitaire des cheminots et des cheminotes à la grève et encore une grande manifestation. On commence à être des habitués. On va donc tous et toutes se retrouver à Perrache le 18 juin à 11h30. Et puis on pourra enchaîner avec le mercredi 20 juin.
Le mercredi 20 juin, il y a une manifestation à Lyon contre la procédure Dublin qui se tiendra. Donc la procédure Dublin, c'est une procédure d'expulsion des exilés, notamment posée par les gens de l'Office. Ça démarre mercredi 20 juin à 15h30 devant la métropole. La métropole, personne ne sait où c'est, mais on va vous le dire. C'est au 20 rue du Lac, Lyon 3e. Ça se terminera à la préfecture et c'est mercredi 20 juin. D'ici là, ACAB. Alors ACAB ce soir, ça veut dire Amenon, Colomb, au bûcher.